On commence. Vous êtes ici dans un travail de recherche qui a été initié par le groupe Script. Donc c'est le groupe de recherche qu'on a fondé à l'UFR LAM, l'Université d'Évry, qui s'appelle Scénariste, Créateur, Réalisateur, Interprète, Performeur, Traducteur. L'idée c'est de partir des écrits, des grands écrits, et de voir à travers différents arts comment ces grands écrits peuvent changer le monde. Donc c'est déjà un projet, j'allais dire, très ambitieux, c'est un projet brechtien au sens propre, c'est-à-dire on ne va pas étudier un auteur pris au hasard, on ne va pas lire pour lire ou parler sur, on va essayer de chercher dans l'histoire des arts, dans le passé, dans le présent, mais surtout dans le futur, qui sont les piliers qui ont permis, grâce à un travail d'auteur, d'apporter quelque chose de plus lumineux dans le monde. Et quand je parle du futur, c'est parce que on a l'ambition d'essayer de créer progressivement les archives du futur. C'est pour ça que j'amène au groupe, non pas uniquement nos thésards ou nos collègues, mais j'essaie de commencer et progressivement on va essayer d'aller aux premières années. On a commencé par les collègues, puis les M2, enfin pardon, les collègues, les thésards, les M2, on descend au M1, on atteint un petit peu les licences. L'idée c'est de retourner à la maternelle, si vous voyez ce que je veux dire. On cherche qui va pouvoir demain tracer un chemin qui a été tracé pour nous par d'autres. Et vous commencez à me connaître, même si vous m'avez croisé que depuis une semaine. Officiellement, je sais pas, on a une étiquette, on est censé, enfin moi je suis censée enseigner l'anglais. L'anglais pour moi est un outil. Je suis pas là pour enseigner l'anglais. Je suis là pour transmettre à travers une langue ou un art quelque chose qui est un support de vie. Et le projet d'aujourd'hui est particulièrement touchant parce qu'on a commencé avec Kubrick, parce que Kubrick c'était un projet rassembleur, tout le monde connaît Kubrick, donc on a fait une opération propagande. Kubrick les films, Kubrick les musiques, on a fait une sorte de promotion facile pub. On a enchaîné derrière avec théâtre contemporain Orient-Occident qui n'a rien de porteur commercialement, mais qui est notre cœur de cible, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Orient, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Occident, dans le théâtre le plus contemporain que personne ne connaît, mais qui sera celui qui va porter les gens demain, vous voyez. Donc on alterne quelqu'un de très ancien à tous les sens du terme, c'est-à-dire un ancien dans les voies spirituelles, c'est quelqu'un qui sait plus, et les nouveaux, les tout nouveaux, ceux que personne n'a encore repérés, puisque même, j'étais venue à cette conclusion en allant régulièrement à la Biennale de la Danse. À la Biennale de la Danse, les artistes que vous voyez, c'est ceux qui sont déjà des grands depuis 10 ans. Donc la place pour les nouveaux, les jeunes, est très difficile. On perce pas facilement dans ces mondes. Donc, ce qu'on espère, c'est que vous, nous, tous, vous pouvez aller nous chercher en Pologne, aller chercher en Sibérie, ailleurs, des gens qui ont quelque chose qui est différent, mais qui va être fort pour nous tous. Pourquoi on travaille sur des prix Nobel? On ne travaille pas sur des prix Nobel parce qu'ils ont eu le prix Nobel. Moi, j'ai travaillé à votre âge sur Harold Pinter, qui a mis combien, 25 ans pour avoir le prix Nobel après. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je ne me suis pas dit, tiens, je vais prendre le bottin des prix Nobel et je vais travailler sur les prix Nobel. Il y a un moment où il y a eu une sorte de rencontre avec une présentation dans l'espace qui parlait, et qui parlait plus que d'autres. C'est, on peut aller au théâtre tous les soirs et il reste des images ou il reste rien. On voit une pièce de cet auteur et on est avec lui toute sa vie. quelqu'un comme Tagore, c'est pareil. Vous allez voir, il y a quelque chose qui va forcément changer en vous. Et je me posais la question aussi tout à l'heure, c'est mais pourquoi, je ne sais pas si vous posez cette question, pourquoi est-ce que des gens qui sont des gens très sophistiqués et très reconnus vont choisir telle ou telle personne pour être un prix Nobel? C'est pas évident. Il y a un nombre immense de personnes magnifiques, d'auteurs magnifiques, qui ont une plume, qui ont une écriture, qui ont un pouvoir et un savoir, mais certaines personnes vont être élues dans cette caste très particulière. L'histoire de Tagore qu'on va vivre avec vous, c'est très emblématique de ce travail de chercheur d'une sève. Vous êtes des nouveaux, vous êtes des jeunes, et vous apprenez ce qu'on vous dit d'apprendre. Faux. Please don't do it. Moi, je suis là pour vous donner une sorte d'autonomie et de sens critique. Allez apprendre ce que vous avez envie d'aller apprendre. Allez chercher vos maîtres, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que ce n'est pas les programmes qui vont vous apprendre à vivre. C'est autre chose. C'est quelque part, il y a des gens qui sont reconnaissables parce qu'ils portent quelque chose. Mais pourquoi ? Sur ce projet Tagore, il se passe que j'aimerais ce qui se passe pour vous plus tard. C'est-à-dire, au lieu d'être en angoisse et en recherche de travail, il faut que vous créez un être qui fasse que ce soit les gens qui viennent à vous. Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que là, on n'est pas uniquement en train de faire un colloque, on va couper mon introduction, j'allais dire, pour les autres. On est en train de faire aussi quelque chose qui est vraiment pour vous. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un moment qui vous est destiné. Je n'ai pas décidé de faire quelque chose sur Tagore. Un jour, Lorenzo Siesco, qui dirige ce centre culturel et cinématographique, est venu vers moi. Il m'a dit, j'ai vu ce que vous avez fait pour Scénariste de la paix au théâtre de l'Agora. Ma porte est ouverte, vous venez quand vous voulez, vous faites ce que vous voulez, proposez-moi quelque chose. On est venu, on a proposé quelque chose avec Giovanni sur Kubrick, et on a fait une petite soirée sur Eyes Wide Shut. Mais, première étape. Deuxième étape, quelqu'un est rentré dans mon bureau, et un jour m'a dit, tiens, j'ai ce manuscrit, je viens de le traduire, je vais l'envoyer à tel éditeur. Et je regarde et je vois Tagore. C'est quelqu'un qui venait, quelqu'un que je ne connaissais pas, qui était apporté par quelqu'un que j'avais rencontré et qui travaille dans le doublage, et qui arrive avec ce texte, qui me voit pour la première fois, qui me montre ce texte, et qui était prêt à le poster. J'allais dire, vous savez très bien qu'un manuscrit qu'on poste arrive nulle part. J'ai intercepté le manuscrit et je lui ai dit, je prends. Comme si j'avais un pouvoir absolu dans notre monde à Évry. J'ai dit, je prends, mais comme moi, je ne peux pas éditer quelque chose qui est une étiquette spirituelle, je ne peux le faire passer que si je l'arrose avec une partie cinéma. Et s'il y a ce texte et des spécialistes de cinéma et d'art derrière, on fera une belle édition et on sortira quelque chose. Et le projet a commencé comme ça. Donc à l'origine, la personne qui a écrit le texte en anglais s'appelle Amrit Inamdar, et c'est quelqu'un qui a un parcours assez incroyable parce que il a été très proche de tous les gens qui sont des gens de savoir. Il a été secrétaire de Sri Aurobindo, il a été, j'allais dire, baigné dans quelque chose qui est la proximité de ses savoirs. Et son texte, il nous dit, il nous le présente comme ça. Je chemine constamment en compagnie de ce merveilleux poète, goûtant le délicat nectar de ses mots étincelants, cueillant par-ci par-là une fleur ou deux dans son jardin mystique, pour les offrir en guirlande à mes compagnons de vie avec l'enthousiasme d'un enfant, et l'espoir qu'un jour, certains d'entre eux entendront mon cri de cœur. Étrange est le voyage de la vie, étrange sont ces épisodes, le luth de ma vie se nourrit de votre exquise musique et de votre sagesse infinie. Ô poète, je chanterai vos chansons jusqu'à mon dernier souffle, et je suis fière de vous dédier le pèlerinage de Tagore au tombeau de l'humanité. Un bref regard depuis l'horizon. Vous avez vu, moi qui ne vois rien, je lis sans lunettes aujourd'hui, c'est hallucinant. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le cinéma est venu tout seul, le texte est venu tout seul, et Azari est venu tout seul, et tout s'est fait tout seul. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dans un monde où il faut forcer, pousser, harceler, si vous êtes dans une certaine direction, il y a des logiques qui font que ça se place. Et je réfléchissais hier à notre univers occidental et à la culture orientale, puisque le travail de Tagore, c'est essentiellement d'essayer de rassembler les deux connaissances. C'est ça qu'il a voulu faire passer aux autres. On a un point commun très intéressant qui est le passage par la forêt. On voit beaucoup de forêts dans ces films, enfin dans les films qui ont été adaptés de Tagore, et on voit beaucoup de forêts dans les pièces de Shakespeare. Or, dans les pièces de Shakespeare, la forêt, le passage par la forêt, on appelle ça le passage par le monde vert, c'est un moment où l'individu qui a quitté son monde, qui est le monde de la cour, de la ville, de la surface, se retrouve face à lui-même. Alors, en général, c'est un moment où il se ressource, il redevient lui, ou c'est un moment où il sombre dans la folie. On a ces deux axes de Shakespeare, mais vous ne pouvez pas avoir une pièce classique de Shakespeare sans avoir le passage par la forêt. Et après, vous avez une sorte de regard avec des valeurs claires, au lieu d'avoir un regard avec des valeurs de cour et de surface et d'hypocrisie. Chez Dante, puisqu'on a notre équipe italienne ici, le passage par la forêt, c'est au milieu du chemin de ma vie, c'est une forêt qui est une forêt obscure. C'est une forêt où on est à la porte de l'enfer, en fait. Donc on y reste, ou pas. Et je me suis demandé, à 5h du matin, où était la forêt chez Tagore, et où j'irais. Et en fait, la forêt, c'est le lieu où il a voulu créer son université, son monde de savoir. Donc, la connaissance, elle se trouve dans un temple, mais le temple, elle n'est pas forcément religieux. Le temple, c'est les arbres. Et chez les Russes, ça se connaît très bien, puisque je ne sais pas si vous avez vu des films de Mikhalkov. Il y en a un qui s'appelle Anna, qui est un très joli documentaire où chaque année, il interviewe sa fille, sa propre fille, et lui demande c'est quoi ce que tu aimes, c'est quoi ta peur. Enfin, il y a trois questions qui sont toujours les mêmes. Et à un moment, on voit des vieilles femmes qui prient devant des arbres, parce qu'on leur a brûlé leurs églises. Vous voyez ? Puisque la politique, un jour, valide l'église, un autre jour la détruit, mais les arbres restent. Et je pense que les prix Nobel, c'est ça. C'est des arbres. C'est des gens qui ont la capacité de... C'est les poètes, c'est pareil, de relier le ciel et la terre. Et sur la connaissance, c'est pas quelque chose qu'on apprend. C'est ce que j'essaie de vous dire depuis Taïwan. C'est une attitude qui vous permet non pas de savoir plus que les autres, parce qu'on n'est pas en compétition en fait, c'est une attitude qui vous permet, dans l'instant, dans l'immédiateté, de voir. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un outil d'appréhension du monde, c'est tout. C'est pas des livres, vous n'avez besoin de rien. Moi qui parle en général, j'allais dire totalement dans le vide, comme je viens de le faire, pour une fois, je me suis dit, je vais lire mon texte. Parce qu'en général, j'arrive toujours avec quelque chose qui est épais comme ça, et puis quand je vois rien, je lis les premières lignes, Puis après, j'improvise pendant des heures et j'ai jamais dépassé les premières lignes. Donc je me suis dit que pour une fois, je vais m'adapter et je vais me contenter de lire ce texte. Alors aussi, vous dire que moi, je suis absolument pas une spécialiste de Tagore, je suis absolument pas une spécialiste de Ray. Mon rôle n'est pas de vous raconter, mon rôle est de mettre à votre disposition des gens qui savent plus que moi. Et c'est aussi par une sorte de travail d'humilité qu'on apprend plus, en fait. Et les passeurs, c'est pas moi, c'est tous les gens que vous allez voir aujourd'hui. Vous avez la liste, on les présentera au fur et à mesure, mais vous avez des gens dont le monde qui ont été formés pour comprendre et être beaucoup plus proches de cette connaissance. Donc, Satyajit Ray, ambassadeur de Tagore. Je me suis dit que pour vous faire comprendre une œuvre qui n'est pas si facile que ça, puisque c'est une œuvre qui vient d'ailleurs, l'outil universel du cinéma aide à mieux faire passer les paroles, les esprits, les connaissances ou les états qui sont en fait tellement ténus que c'est pas la théorie qui va vous apprendre qui est Tagore. Je peux vous donner une anecdote très simple. Quand vous avez vu, je suis incapable de lire ma première ligne. D'habitude, je fais la première ligne et après je parle. Je n'ai même pas démarré. Mais bon, I'm trying hard. Quand j'avais 18 ans, j'étais en Angleterre et je jouais au tennis à Cambridge avec des amis. Et on jouait évidemment très très mal, on était complètement nuls. Mais vraiment nuls, enfin, vous ne pouvez pas imaginer. Et sur le bord de notre terrain de tennis, près de la cam, près de la rivière, a surgi un magnifique Indien, une sorte de prince venu d'ailleurs, qui nous a regardés avec un air très très cynique. Et vous savez, les Indiens qui vivent en Angleterre, c'est pire que des Anglais, quoi. C'est-à-dire que ils n'ont pas besoin de parler, on les entend penser, c'est horrible, quoi. C'est ça. Ils ont à la fois le understatement, il ne va même pas jusqu'à la parole. Vous comprenez si j'ai raison? Voilà. Et en fait, c'était une sorte de premier non pas pilier, parce qu'il y a des gens qui sont des piliers, et dans la vie, il y a des gens qui sont des miroirs. Et lui, c'était le premier miroir. C'est-à-dire qu'en le regardant, on voyait à quel point on était nul. Et je pense que c'est la leçon 1 de n'importe quelle voie spirituelle. On apprend qu'on ne sait rien. Vous savez bien que c'était ce que Socrate disait, mais tous les autres disent la même chose. Et il nous a proposé de nous former. Ça veut dire que... Et pareil, et officiellement c'était du tennis. Ça n'a jamais été du tennis. La seule qui a fait du tennis, c'était moi. Les autres ont disparu. Et tous les jours, j'allais parler avec lui 2 heures. Et puis, c'était assez étonnant parce que déjà, le temps n'était plus dans le concept espace-temps. C'était 2 heures qui auraient pu être 2 minutes, vous voyez. Et puis, au bout de ces 2 heures, ça s'arrêtait et je partais. Et dans ma vie chaotique, ça a été une histoire totalement platonique, mais une histoire qui est peut-être plus déroutante que n'importe quelle des histoires. Parce que cet homme venu d'ailleurs, qui devait avoir dans les 40 ans, moi j'en avais 18, la relation n'était pas une relation comme on a aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est pas une relation qui cherchait à obtenir quelque chose, ni d'un côté ni de l'autre. Et il y a eu une sorte de passation. Et quand j'arrivais chez lui, moi j'arrivais avec mon monde. Donc j'arrivais en disant, What's new? Et on me répondait, The day is new. Et à partir de là, tout s'écroule. Vous comprenez ce que je veux dire? Où il me disait, You don't have to look for something, it just comes. Et après, j'ai passé des années aux États-Unis, on passe sa vie à chercher et à vouloir obtenir. Donc comment on se réajuste par rapport au fait que quelqu'un un jour vous dit, ça vient tout seul, et vous passez 20 ans ou 30 ans de votre vie à forcer des murs, alors qu'il y a des choses qui viennent tout seul, et la seule chose qui a de la valeur, elle vient tout seul. D'accord? Donc, c'est un autre monde. Je commence. Il y a quelque chose de délicat, subtil dans l'œuvre du cinéaste Satya Chitray. Il nous prend par la main et nous invite à pénétrer une culture autre en douceur. On est immédiatement happé par son univers, même si la langue et la culture est autre. Tous les films sont en bengali. Comment parvient-il à se faire l'ambassadeur de l'Inde en pleine mutation? On suit ses films de l'intérieur, on est invité à placer notre regard au centre du film et non à l'extérieur, sans pour autant à aucun moment nous identifier aux personnages qui sont totalement autres. Première leçon de cinéma, grand scénario, première chose qu'on nous demande de faire, c'est créer un personnage avec lequel on peut avoir de l'empathie, parce que sinon jamais on va pouvoir suivre son histoire et s'y intéresser. Vous allez voir des films, vous comprendrez bien qu'en 2 minutes, il vous sera impossible de vous dire « je suis tel personnage, vous êtes autre ». Mais pourtant ça marche. On se glisse derrière la caméra et la lenteur des plans nous permet de nous imprégner de la vie qui se déroule. Les villageois passent le long d'un chemin, les personnages entrent et sortent des plans, partout. Que les scènes se situent en intérieur ou en extérieur, le flux de la vie anime l'image. Je me suis contentée de regarder les films et de vous dire comment ça marche. Pourquoi c'est tellement différent? Pourquoi on est impacté? Et pourquoi c'est pas filmé comme nous, enfin, comme l'Occident filme? Parce que la vie est en continu derrière. Vous avez toujours des gens qui rentrent, qui sortent, qui sont pris et qui appartiennent à la réalité. Les personnages passent avec parapluie, thé, chien, les individus surgissent comme si la vie était parfaitement réglée de l'extérieur et qu'il suffisait de poser la caméra pour l'observer. On a une esthétique de documentaire devant laquelle les personnages étirent leurs émotions ou leurs ambitions. Les hommes désirent régner sur le monde, la politique, l'information, la bureaucratie. Ils sont identifiés à leur statut et passent à côté de la poésie, de la vie, incarnée par les femmes, qui, elles, ont du temps. Dans cet univers, elles ont du temps pour broder, préparer le bétel, observer la vie derrière leurs jumelles d'opéra, chanter ou se balancer comme des enfants. Elles sont hors du monde, calfeutrées dans un univers d'interdits, et elles y jouissent de la liberté de l'imaginaire, de la lecture ou même de l'écriture. Elles sont en phase avec la nature. Les oiseaux, le flux des rivières, alors que les hommes errent dans le flux de leur ego surdimensionné et semblent avoir oublié les paroles des écrits sacrés. Ce n'est pas étonnant que Ray ait trouvé la source de son inspiration chez Tagore, poète, musicien, philosophe, romancier, peintre, l'homme aux multiples talents, à la confluence du pouvoir des hommes et du savoir des femmes. Donc Tagore est né en 61, mort en 41. Il est né dans une famille d'artistes et de réformateurs sociaux et religieux, opposés au système des castes et favorable à une amélioration de la condition de la femme indienne. Et les questions de fond sur la situation de la femme en Inde sont présentées dans les films de Ray de façon oblique, sans être développées. En aucun cas, il n'utilise ses personnages pour débattre de sujets polémiques. On n'a pas des gens qui font des discours sur le droit de la femme ou des choses comme ça. Ces films se font plateforme de promotion sociale pour les femmes, en nous invitant à mieux les connaître et à en apprendre la valeur. Son arme politique est l'émotion et l'accompagnement empathique. Le sujet, par exemple, vous savez, quand la veuve se donne la mort, est brûlée, ce sujet est crucial, mais évoqué en passant, comme en aparté. C'est assez étonnant, c'est comme si, elle s'est brûlée. Dans des jours et des nuits dans la forêt. Sa mère s'est brûlée vive, une double infraction aux règles de la nature et à celles des coutumes, puisque son père est encore en vie. Son frère s'est suicidé. En fait, il y a des choses beaucoup plus troubles qu'il n'en a l'air. Il y a des décalages par rapport à l'idée qu'on se fait sur cette tradition. Il y a beaucoup de non-dits. Les drames humains sont relatés au sein de la conversation au lieu d'être exhibés sur scène. On est dans une optique narrative shakespearienne et non dans une démonstration de sang et de meurtres issus du théâtre jacobin. Dans le théâtre sous James I, on assassinait, on trucidait les gens en direct. Chez Tagore et Ray, tout est dans la retenue. Un simple regard évoque la nostalgie de la perte. Dans Charulata, on est relégué au-delà de l'émotif. Le cinéma de Ray est impressionnant par son apparente simplicité. On oublie très vite qu'on perd un film. On est happé par le destin des personnages. Il parvient à ce tour de force en établissant un équilibre entre chaque pilier de l'écriture narrative. Aucun élément ne l'emporte sur l'autre. Le développement narratif naît de la condition des personnages et non l'inverse. Aucune parole ne provient d'un raisonnement intellectuel superficiel. On est loin du modèle occidental où le flux du dialogue et l'impérialisme du principe du récit l'emportent sur tout. Les personnages sont d'emblée universels parce que ce qui leur arrive est archétypal. Lorsqu'il n'y a pas d'entente, pas d'entraide, pas d'argent, pas de respect des ancêtres, pas de transmission simple des règles éthiques, on va à la catastrophe. Quelle que soit la bonne volonté ou les bonnes intentions, si les règles nécessaires à un équilibre de vie ne sont pas réunies, les mécanismes de destruction vont inéluctablement tout détruire. En fait, il nous fait des contes qui sont instructifs et il prend la vie telle qu'elle est avec les individus d'un village et chaque personne correspond à une facette d'attitude et le tri se fait très vite. La complainte du sentier décrit comment deux familles voisines subissent deux sorts différents. Le verger étant la pierre d'achoppement, les fruits volés pour nourrir la vieille tante ne suffisent pas à rééquilibrer les différences. Ce n'est qu'au cœur du récit qu'on se demande à qui appartient vraiment ce verger, source de survie à ces familles. Il aurait été cédé aux voisins pour combler les dettes du frère. Gray parvient à rendre universelles des histoires d'amour, de jalousie, d'envie, de souffrance, en introduisant tous les éléments de vie. Le nouveau-né, la vieille femme, toutes les générations sont présentes. Les personnages secondaires acquièrent tous une autonomie grâce à un développement narratif logique qui leur est propre, qui est intrinsèque à leur idiosyncrasie décrite en une image. Oui, il a cette capacité de, dans le flux du film, de saisir un moment comme un portrait qui est l'équivalent d'un portrait robot du personnage. C'est-à-dire dans l'image, dans le visage, on sait tout sur la personne. Les personnages secondaires acquièrent tous une autonomie grâce à un développement narratif logique qui leur est propre, qui est intrinsèque à leur idiosyncrasie décrite en une image. La caméra saisit dès l'introduction du personnage les données psychologiques et les potentialités de courbe dramatique des personnages. Tout est évident et se déroule comme un fleuve, suit son cours dans un univers total. Jour, nuit, soleil, pluie, tempête, saison, faune, flore, de plonger des personnages au sein de l'univers naturel, permet de s'extraire du contexte et de les considérer comme un petit rouage au sein d'un tout organique. De la description complète des éléments par la prise en compte de simples gestes de la vie quotidienne qui déterminent le rapport de chacun à la nature, aux animaux et aux êtres humains, les destins sont tracés. C'est tout simple en fait le message de Tagore. C'est, on est une parcelle dans un organisme. Et lui, la forêt, c'est, elle permet... quand vous voyez un plan où les personnages sont dans la forêt, l'impact est immédiat, on comprend le message. Le personnage est tout petit, les arbres sont très grands. C'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Et tant qu'on n'arrive pas à repositionner l'individu et à se repositionner soi-même comme étant cette toute petite chose dans un système qui nous dépasse complètement, on s'agite dans le désordre. Ce qui pour moi est vraiment important et exaltant, ce n'est pas le gain immédiat, mais de pouvoir démontrer que d'associer l'art à la vérité doit à la longue conduire au succès. C'est en tant qu'artiste ce qui me tient le plus à cœur. Traduit bizarrement tout ça, mais c'est un message du réalisateur qui explique qu'en fait, chaque image, il essaye de saisir la vérité du personnage. La complainte du sentier est le premier film de Ray, c'est une révolution. Jusqu'ici, les cinéastes indiens tournaient en studio. Lui se lance, il n'a pas d'argent, il n'a pas l'équipe, il n'a personne, ils n'ont jamais rien fait, en fait, ils ne savent rien faire. Mais ils y vont. Il se lance sans argent, avec une équipe inexpérimentée, en extérieur, avec des amateurs, excepté une vieille dame, actrice à la retraite depuis très longtemps. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'il ne va pas raconter une histoire, il va raconter la vie. Il va aller prendre la vie vive. Et le reste suivra. Donc Ray nous propose un cinéma réaliste, proche documentaire, parce qu'il est nourri d'informations précises sur la vie quotidienne, à la manière d'un cinéma anthropologique. C'est tout simple, c'est-à-dire, il va nous apprendre plus sur ces gens-là, par un moment sur la tasse, un moment sur l'objet, un moment sur la façon dont ils sont assis. Pourtant, ces objets, les animaux, les pratiques culinaires, les rituels, ne sont présentes que comme une trame quotidienne sur laquelle vient se greffer le groupe de personnages étudiés dans ces interactions humaines. Donc comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, il ne fait pas un gros plan sur un objet pour me dire, tiens, voilà la façon dont il cuise le riz. C'est... on a l'impression qu'il filme le rythme de la journée. Il y a un moment dans la journée où on cuit le riz. Et donc, ça se fait, parce que ça se place là. J'étais née et j'avais grandi dans une ville et tout d'un coup, je me trouvais en contact avec une ambiance nouvelle, un nouvel état de choses. J'éprouvais le désir de tout voir, de tout expérimenter, de saisir les moindres détails, les gestes caractéristiques, les manières de s'exprimer différentes. Mais il fallait sonder les détails de l'atmosphère. D'où venait la différence? Comment est-il possible de saisir la différence entre l'aube et le crépuscule? De rendre perceptible le calme blafard et humide qui précède les premières pluies de la mousson? Le soleil de printemps était-il le même que celui d'automne? Ça, c'est la plus belle leçon qui peut vous apprendre à vous dans votre métier. La différence. C'est-à-dire, chaque mot est légèrement différent d'un autre. Et de la même façon que vous allez regarder une feuille et reconnaître qu'il y a une nervure de plus ou de moins, le mot va sonner légèrement différent ou différemment. La complainte du sentier, l'invaincu et le monde d'Apu, c'est ses trois premiers films, traitent de la jeunesse, de l'adolescence et de la maturité du personnage principal. Débuté en 55, achevé en 59, une fresque qui couvre une durée de 30 ans et présente le sort de 4 générations dans un continuum exceptionnel, même si chacun de ces films a été conçu de façon séparée. 5 acteurs se sont succédés pour incarner les différents âges d'Apu. Le mot continuum, c'est peut-être le plus important, j'ai l'impression, dans ce qu'il a à nous faire passer. Donc j'ai pris le temps. Je suis le chef, donc je m'autorise à prendre. Les autres, ils n'ont pas le droit, 20 minutes, top chrono. Et puis, si vous pouviez fermer les portables, parce qu'il y a un son qui nous... j'ai pris le temps de faire un petit travail de décortiquage, c'est-à-dire de regarder simplement des procédés dramatiques. Parce que sinon, on regarde un film et ça glisse. Mais c'est intéressant de voir. Enfin, moi, la seule chose qui m'a toujours intéressée, c'est pas qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qu'on voit, mais comment ça a été fait. Et surtout, pourquoi le réalisateur ou l'écrivain a choisi de mettre telle image avant telle autre. Donc, j'ai essayé simplement de faire ressortir quelques procédés. Donc, les caractéristiques cinématographiques de l'œuvre de Ray sont en quelque sorte une transposition au cinéma des engagements souhaités par Tagore. Puis à vous de me dire si c'est juste ou pas. Plus qu'une simple illustration ou adaptation de différents textes. Le passage de l'œuvre de Tagore à celle de Ray est semblable à une passation de flambeau. On a le sentiment d'une grande fluidité, d'une incroyable compréhension, d'un partage d'une vision, bien plutôt que d'un travail de transposition. Vous êtes des futurs traducteurs. Tagore, Ray, c'est votre livre de chevet, d'une certaine façon. C'est-à-dire, on ne traduit pas des mots. On incarne comme un alien l'auteur initial pour devenir son avatar. Sinon, c'est pas la peine. Vous êtes d'accord? Donc, on note une caractérisation des personnages sans complaisance, des personnages monovalents, faciles à identifier comme un type de mécanisme dans le rouage de l'organicité humaine. Aux États-Unis, quand on vous apprend à créer un personnage, on vous dit « How good is your good guy and how bad is your bad guy ?» Et c'est tout. Mais si vous réfléchissez à l'envers, c'est-à-dire au lieu de vous dire « Tiens, on crée le cinéma en sachant que quelqu'un va être blanc ou noir, point. Mais dans la vie, nous on est quoi ?» Vous voyez ? Mais c'est pas « nous on est quoi ?» En général, c'est nous, on est quoi à chaque instant. Vous voyez? À chaque instant, you're a good guy or you're a bad guy. Il n'y a rien qui reste. Et pourtant, le flux, vous êtes dedans. Vous ne pouvez pas y échapper. Donc un continuum. Une lenteur qui laisse la vie se placer et se dérouler au fil de la journée avec naturel. Une immersion au miroir dans la nature. Ce que j'ai trouvé fascinant, parce que moi, les films de rêve, je les ai vus quand j'avais votre âge, en fait. Il y a eu un trou. Il y a eu les films de rêve, il y a eu la vie, et puis il y a eu ce cadeau qu'on est venu me faire. Et en revoyant ces films ou en découvrant d'autres, j'étais sidérée parce que, en fait, quand je vous parlais d'église ou de forêt, vous comprenez que la différence entre une église, un dogme, vous êtes tous nés dans une culture X ou Y, et on dit il faut faire comme ci ou faire comme ça. La différence entre le travail d'une église, quelle qu'elle soit, et le travail d'un chemin spirituel, c'est dans l'église on vous dicte des codes, dans le chemin spirituel, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a personne. Et c'est à vous de le faire, c'est à vous de le trouver. Mais il y a quelque chose d'hallucinant, c'est que quelle que soit l'étiquette, que ça soit du soufisme, que ça soit, quelle que soit l'origine ethnique, c'est le même message, partout dans le monde. Alors, un continuum, et dans ces films-là, on trouve tout ça. Donc, c'est une facilité à décrypter, c'est juste presque trop simple. Donc, une lenteur qui laisse la vie se placer et se dérouler au fil de la journée avec naturel. Une immersion en miroir dans la nature. L'homme est partie prenante de son univers végétal ou urbain. Il ne s'en détache pas. Il en fait partie et est en réactivité avec les effets climatiques. On a une leçon de morale, une narrativité démonstrative, une fluctuation constante, un suivi du calendrier de la vie. Aucun immobilisme, une création d'une sensation de continuum au-delà du film. Et ça, c'est formidable, c'est-à-dire le film s'arrête, mais vous voyez, pour aider la transmission, il y a part 2 et part 3, mais en fait, chaque film ne s'arrête pas. C'est quelque chose qui pédagogiquement nous aide. Mais en fait, quand un film de rêve s'arrête, il continue en nous, il déborde. Vous voyez, il n'y a pas un point final. Aucun immobilisme, et pas de façon artificielle, parce qu'on ne sait pas qui va tuer qui, ou, vous voyez, ce n'est pas le suspense de l'épisode de la série télé, c'est autre chose, c'est la vie continue à se glisser. Donc la confrontation entre la tradition et la modernité semble être le moteur de la création. C'est le point sur lequel le développement narratif se crée. Chaque personnage présente une facette différente face à cette question centrale. Positionnement sur le curseur qui oscille entre la tradition et le progrès. Ferroviaire, féministe, culturel, politique. C'est assez facile de suivre cet enseignement parce que, au lieu de traiter du bien et du mal, comme il n'y a pas un livre qui traite d'autre chose que du bien et du mal, en fait, il traite du bien et du mal dans le contexte de la tradition et du progrès. Donc, il nous met un double abscisse ordonnée, double croisement. Un vortex, nous diraient nos camarades culturalistes, sinon culturels. Le principe de double flux. Jeunesse, âge adulte, tradition, modernité, féminité, masculinité, bonté, méchanceté, sagesse, inconscience. Les personnages sont traversés en permanence par des choix. C'est ça que je trouve extraordinaire. C'est-à-dire que pourquoi c'est une œuvre philosophique, cette œuvre de Ray? C'est que, au lieu de nous raconter une chronologie, une anecdote, il nous met à chaque instant chaque personnage en face d'un choix entre le bien et le mal. Et le bien et le mal pour lui ou pour la communauté. Donc, des choix et un positionnement nécessaire au carrefour de ces flux contradictoires. C'est cette recherche constante de leur état de vérité, indépendamment d'un jugement, qui classerait cette vérité de la personne dans le bien et le mal, qui permet de façonner des personnages qui émeuvent, même s'ils sont extrêmement codifiés d'un côté ou de l'autre de cet axe moral. À chaque instant, il leur est demandé de réeffectuer ce choix, comme si toute la vie était un jeu d'enfant, une sorte de défi et un chemin initiatique. L'utilisation du gros plan est très différente du gros plan occidental, qui vient se placer dans une grammaire cinématographique de rapprochement et d'éloignement. Dans le cinéma qu'on connaît, il n'y a pas de miracle, hein, le gros plan, il ne surgit pas comme ça. On a plan large, plan moyen, gros plan, et on y réouvre. One, two, three, four. Ici, c'est le personnage qui, de lui-même, marche vers son gros plan. Et au moment où il est prêt à le faire. de la même façon qu'il marcherait vers son destin. Une fois là, il nous regarde, et c'est nous qui sommes d'autant plus happés dans l'histoire que la marche au gros plan nous entraîne au jeu de miroir et à cette identification de façon bien plus efficace qu'en simple juxtaposition. Ren n'en abuse pas, il prépare un moment par personnage, moment anagoristique, c'est-à-dire un moment où on se voit soi-même en fait, on comprend qui on est, pour ce personnage, qui se voit en nous et se fige alors dans son identité comme dans une définition. Au miroir au-delà de l'écran qui nous lie au dessin du personnage s'ajoutent des miroirs déformants sous la forme des jeux d'ombre et lumière, l'ombre de la vieille femme qui raconte des histoires aux enfants, ombre déformée de sorcière, et l'histoire de l'ogresse qui traverse tous les films. J'espère que quelqu'un nous l'expliquera, qu'est-ce que ça signifie pour un enfant d'entendre cette histoire. Figure de théâtre d'ombre, proche du théâtre balinais qui avait tant inspiré Artaud. Ou autre moment de confrontation paradoxalement avec soi-même, la fête foraine. La rencontre avec les masques, les jeux de rôle, le théâtre, les musiciens, les animaux de foire. La vie dans un labyrinthe au miroir, déformant, qui apprend à voir de façon différente. Ce qui est le seul moment d'aiguisement de la vision par un déplacement des angles d'approche. Le monde de la fête de village est l'équivalent chez Shakespeare du monde vert dont j'ai parlé tout à l'heure. Il s'agit d'un monde que l'on ressent comme coloré, même dans un film en noir et blanc. Vous allez voir, c'est étonnant. Le monde autre et monde intime qui nous force à nous ressourcer dans notre partie vraie, ce qu'il reste de l'enfant en nous, que cela soit dans des jours et des nuits dans la forêt ou dans la complainte du sentier, le phénomène de leçon dramatique est le même. Chez Shakespeare, le passage par la forêt, le monde vert, permettrait d'apprendre à se connaître soi-même, une fois dépouillé de l'appareil et du vernis superficiel de la cour et du monde urbain. Plonger dans la ruralité, c'est pour les personnages ou le réalisateur réapprendre à balayer le sol de la cour. C'est une activité qu'ils ont souvent. Le monde de l'art et du jeu est associé à un non-travail et à une forme d'irresponsabilité face aux nécessités de survie économique. Ray est toujours proche du descriptif, l'objet et la relation à l'objet en est plus que tout discours. C'est une sorte de behaviorisme, un excellent observateur de la nature humaine. Et parmi les techniques de Ray, souvent le son vient avant l'image, d'après un procédé qui s'appelle le son extradiégétique, c'est-à-dire on entend le chant ou on entend une parole sans voir d'où vient la source. Donc on entend le chant sur un déroulé d'image. Dans le cinéma américain, on voit ça, on entend un son, puis après on voit la radio. Ce qui m'a beaucoup surpris et dérouté, c'est comment il est beaucoup plus fort, ouais, parce que il ne fait pas une superposition de son sur une image et puis on voit la source. Il fait une superposition du son sur une séquence, de telle façon que on oublie que, enfin, on ne peut pas identifier le son comme quelque chose qui va surgir et dont on va connaître l'origine. C'est-à-dire que le son entre en nous de façon subliminale, comme une simple chanson et comme une simple illustration, comme quelque chose, entre guillemets, qui dans notre quotidien à l'occidental n'a pas d'importance, c'est juste du décoratif. Or, il n'y a pas plus porteur que ces passages qui sont par exemple les chants des mendiants ou la morale, le conte, le savoir, il est là. Mais on n'a pas le temps, vous voyez, de l'identifier, il s'imprègne. Et comme c'est sur une longue séquence, on ne le décortique pas comme quelque chose qui nous éclate à la figure et qui a un message lourd. Simplement, il se pose. Et je pense que c'est une grande leçon que le monde indien a, c'est le temps. Tout passe par un glissement lent. Et la séquence est structurée en se recentrant par des panoramiques et un zoom sur le chanteur, le chant du mendiant dans la déesse, ou l'histoire pour les enfants de la vieille femme dans la complainte du sentier, avant qu'on identifie la source du son. Le fait de scinder l'orateur du message donne le temps de s'imprégner du message. La pratique de cette superposition de sons extradiégétiques sur une séquence et non sur une simple image précédente, comme c'est généralement le cas, trompe l'auditeur qui range dans son esprit cette piste son en tant qu'illustration sonore sans y attribuer directement de l'importance. L'adéquation du son et de la source du son crée une sorte de court-circuit et force à l'éveil de la conscience. C'est uniquement ça. Comment vous transposez un texte qui est un texte spirituel, on a un film qui est un support DVD, courant, commun. Qu'est-ce qui fait qu'il va se passer quelque chose? C'est pas évident. C'est-à-dire, on n'a pas un moment où il y a un discours politique qui va venir sur une tribune hurler un message. Ce que ces individus cherchent à faire avec leurs moyens, qui sont l'écriture, ou la chanson, ou l'art, d'accord, les avaient tous les moyens, c'est vous faire quelque chose. Et la seule chose qu'ils cherchent à vous faire, c'est cet éveil de la conscience. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est essayer de former des futurs créateurs, c'est-à-dire comment vous, une fois que vous avez soit un stylo à la main ou une caméra à la main, comment vous allez faire pour créer quelque chose chez l'autre? Comment, non pas devenir des gens qui sont là pour analyser ce qui a été fait par les autres, mais comment comprendre le mécanisme de la même façon que vous avez des métiers, d'autres métiers, vous avez signé ici pour être dans les sciences, la technique ou l'audiovisuel. Il y a des métiers comme être horloger ou être menuisier, on va apprendre à tenir l'objet et à le refabriquer à partir de zéro. Même un boulon, ça ne s'achète pas forcément au BHV ou à Bricorama. Ça peut se fabriquer. Il faut être apte à fabriquer son propre outil à chaque moment, quel que soit l'objet. Et ce n'est pas facile. Donc, et surtout, en général, on ne se pose pas les questions de comment ça marche ou comment ça a été pris dans la glaise. Donc, le lecteur qui range dans son esprit ses mains, vous lavez le court-circuit, donc force à l'éveil de la conscience et favorise dès lors la portée mnésique du message, du passage. Pourquoi ça marche? Parce qu'on peut le mémoriser, parce que quelque chose nous a été fait. Enfin bon, vous comprenez ce que je veux dire. Ces passages portent le message du film, la trame narrative se condense pour converger vers cette morale à laquelle tous les sens sont progressivement conviés. Le cinéma hollywoodien procède différemment, le message du film est positionné aux deux tiers du film, dans un moment de répit, le plus souvent face à un lac ou la lune. Les personnages sont sur un banc, dans un parc, vous avez ça dans Will Hunting, c'est très clair, sur un débarcadère, et le mentor, parce que les films d'Hollywood, c'est pas des navets. Pourquoi ça marche et pourquoi ça se vend? Parce que les connaissances de l'Orient, ils les ont parfaitement intégrées. Que ce soit Star Trek ou que ce soit tous les autres films, ils ont exactement la même structure et quelque part, en page 75, vous avez le mentor. Le mentor énonce sa leçon dans un moment de plan fixe étiré et sur le mode du monologue didactique. La formule de Ray est beaucoup plus subtilement tissée dans le continuum. De même, dans la déesse, certains moments forts participent du même type de progression. Le père explique que depuis la mort de sa femme, il marchait avec une canne, et ce depuis 5 ans, avant l'arrivée de sa belle-fille. Très lentement, vous avez la caméra qui glisse le long de son corps pour découvrir que celle-ci est en train de lui masser les pieds. C'est-à-dire, vous avez un son qui peut être le son d'une chanson qui se replace après plusieurs plans sur l'homme qui chante, et qui sera d'ailleurs tout sauf un moment illustratif parce qu'il va avoir des... Il va être réintégré dans la trame dramatique avec des fonctions importantes pour l'histoire. Mais vous pouvez avoir aussi la même chose sur une sorte de glissement de l'image, de l'identification de l'image fabriquée comme identification sonore. Donc on va s'apercevoir que la jeune femme est en train de lui masser les pieds et on a donc le procédé inversé. La source du son est donnée, il s'agit d'un son ou plutôt d'une parole intradigétique, mais l'aboutissement dramatique, purement visuel, surgit avec un son off, glissement hors cadre de l'élocuteur, et Ray a donc une maîtrise parfaite de l'effet dramatique. C'est sa façon de composer une partition musicale avec une image ou un son qui devient point d'orgue, point d'aboutissement dramatique. Ce qui donne un effet naturel, c'est que les personnages secondaires, les serviteurs, les passants, les enfants dans la rue, s'intègrent au tournage comme s'ils se contentaient de vivre leur réalité. En fait, on vit un film de Ray un peu comme on va à l'église orthodoxe. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez vécu cette expérience. Je suppose que vous êtes tous rentrés dans une église catholique. Tout le monde est bien gentiment assis et écoute le grand chef, le grand sioux. Ça bouge pas, quoi. On n'oserait pas. Et dans une église, dans les églises russes, enfin russes ou arméniennes ou roumaines, puis c'est les orthodoxes et grecs, c'est un fouillis hallucinant. Ça bouge dans tous les sens. C'est-à-dire, n'importe qui, quel que soit l'âge, voit qu'une bougie est en train de s'éteindre, on se déplace pour aller la rallumer. Vous avez tous les âges de la famille, et puis vous avez la folle du village, vous avez mon soutien. Enfin, il y a la vie du village et à l'intérieur de l'église. Ça vit, ça bouge. Et là, dans ces films, c'est pareil, ça. Il y a des gens qui rentrent, qui ouvrent un meuble, on ne sait même pas si c'était prévu ou pas. Enfin, mais ça crée un moment de réel, en fait. Parce qu'ils le font avec un tel calme et un tel glissement que c'est normal. C'est comme dans... Enfin, c'est la vie. À la limite, et je ne sais pas si... Enfin, je vais quand même essayer de lire dans l'ordre plutôt que ça ira plus vite pour vous. Je continue, mais ça va se développer un peu. Donc, l'originalité du traitement du rêve, l'hallucination... Non, j'ai sauté un gros passage. Ce qui donne un effet naturel, c'est que les personnages secondaires, les serviteurs, les patients, les enfants dans la rue, s'intègrent au tournage comme s'ils se contentaient de vivre leur réalité, parce qu'ils n'ont pas l'air de jouer. Ceci renforce l'effet naturel. D'ailleurs, il est fort probable qu'à l'époque, une grande partie de ces individus saisi dans la trame du film, n'en avait pas forcément conscience. Ça, faudrait vérifier, sincèrement. Une intuition. Dans l'histoire du documentaire, les gens filmés ne se rendaient pas forcément compte qu'ils l'étaient. Et en particulier, qu'ils étaient enregistrés. Le développement des caméras récentes, à l'allure d'appareils photographiques, reproduit cette possibilité de captation anonyme de la vie. On revit en arrière des moments techniques, où vous filmez les gens, ils s'en rendent même pas compte, parce qu'en fait, votre caméra n'a pas l'air d'une caméra. Donc l'originalité du traitement du rêve, hallucination, illumination, révélation, par une superposition d'une image sur fond noir, vous avez dans la déesse les trois yeux du savoir, qui glisse le visage endormi du père à celui de la belle-fille, puis un virevoltage de lumière sur son visage, avant de revenir au visage du père, les yeux ouverts, et sa sortie du rêve. On assiste à un double fonctionnement, un montage à la russe, jusqu'à sa position, mais un montage à l'allemande, si l'on peut dire. Bon, l'effet Werthoff, c'est vous mettez deux images l'une à côté de l'autre, et c'est la juxtaposition des deux images qui crée un sens. Sinon, si vous changez l'ordre, ça veut dire complètement autre chose. Ce que j'appelle l'effet à l'allemande, je ne sais pas si vous avez lu les romans de Hermann Hesse, mais ça ressemble à des hallucinations LSD avec des couleurs dans tous les sens, vraiment. Et là, la superposition, elle est pas juste du feeling, vous voyez, c'est ça. Et on est bien avant, on est pas dans les années 70, là. Donc il a une créativité cinématographique qui est assez étonnante pour quelqu'un qui commence son premier film simplement en prenant la caméra et en partant, quoi. Donc, identification des lumières oscillantes sur fond noir, dans une scène éclairée du rituel sacré, avec le chandelier de célébration, qu'on agite au rythme des percussions devant le visage de la déesse incarnée. Et on retrouve donc, ce que je voulais dire, c'est que on voit des images, des petites lumières là qui tournent, et on ne comprend pas trop ce que c'est que ces lumières. Et après, on voit comme ils ont fait d'une jeune femme qui est la simple belle-fille, la réincarnation d'une déesse, et de jour, on voit cette sorte de chandelier rond qui est agité comme un encensoir devant elle et on réidentifie les lumières. Il y a un passage du film. Mère, je t'ai reconnue, noir est ton visage, la noire est ton nom, mais tu rayonnes dans l'ombre. Fous ceux qui ne voient en toi qu'une statue de pierre, mon cœur et mon âme en connaissent la grandeur. Mère, je t'ai reconnue, sous ta nouvelle forme, sous ton nouveau costume. Oh, venez voir ma mère, la sombre. Le toucher de sa grâce est une joie pure. Mère très compatissante, infini est le bonheur que lui donne mère. Je t'ai reconnue. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que Tagore et Ray sont les observateurs de la transition que subit l'Inde entre le monde de la foi aveugle et celui de la modernité et de la médecine. L'histoire de la déesse stigmatise les croyances. Tagore dresse le portrait d'un père qui psychologiquement s'autorise à utiliser sa belle-fille comme soutien après le décès de son épouse. Il ne se contente pas de cette aide humaine. Il imagine que la déesse qu'il a toujours priée est incarnée dans cette femme. Et l'époux, qui est parti à Calcutta faire des études, revient et se trouve privé de son épouse, désormais transformée en guérisseuse, jusqu'à ce que son neveu s'éteigne. Donc on a le passage de consécration de Doya, qui est mis en scène de façon assez étonnante, où on voit aussi quelque chose que Ray fait magnifiquement, c'est comment il occupe l'espace. Vous allez entendre plus tard quelqu'un qui est un spécialiste de la scénographie. Et il y a une image dans la déesse qui est très étonnante. C'est-à-dire, à partir du moment où cette jeune femme est devenue Saint-Louis sous son arbre, où elle guérit tous les gamins qui passent, et tous les mendiants et tous les malades, il y a une foule de pèlerins qui vient vers elle, qui vient vers cet escalier. On alterne une image où elle est en majesté en haut de l'escalier, et avec les groupies. Et tous ceux qui arrivent, ils arrivent, il est capable, à l'intérieur d'une image qui est un plan, enfin caméra fixe, de nous rendre une impression d'infini. Et sur cette image, le mot infini, à un moment, se place dans le son. Et la façon dont il le fait en remplissant l'espace, d'abord de gauche à droite, puis en haut à droite vers en bas. Et puis ça repart là, c'est-à-dire que tout l'espace est rempli et on sent que ça va continuer et il n'y a pas de fin. Et c'est très intéressant parce que l'année dernière, l'autre année, on avait fait un débat avec une productrice de Taïwan qui avait mis en scène En attendant Godot et qui nous avait expliqué, c'est ça qui m'intéresse et que j'aimerais que vous appreniez à saisir, c'est comment ça marche, que pour eux, quand un personnage doit aller à droite, dans la scène, il commence par aller à gauche pour aller à droite, systématiquement. Et c'est génial, parce que ça recrée l'espace, ça recrée la distance. Et je peux vous dire, on a des témoins ici qui ont assisté au spectacle. En attendant Godot à l'occidental, c'est long, on attend, on souffre. En attendant Godot avec eux, c'est une sorte d'émerveillement de chaque instant où on n'attend pas pareil. C'est d'un monde où il se passe à chaque seconde une petite lumière, un petit moment, une sorte de battement de vie. Donc un sens du temps très différent, l'impression qu'on a du temps, il se déroule à un rythme à suivre, l'impression qu'on peut suivre ces films sans en comprendre la langue. En fait, il n'y aurait pas de sous-titres, ça marcherait tout aussi bien. Parce que toute l'émotion est présente dans chaque image. L'image est majeure, elle est humainement forte à chaque instant. Il est apte à saisir la sincérité du moment. Son utilisation de la grammaire cinématographique est particulièrement sophistiquée. Il nous surprend en permanence parce qu'il a une maîtrise parfaite de son outil. L'économie des mouvements de caméra laisse aux personnages le temps de s'intégrer à l'environnement dont ils sont intrinsèquement tributaires. Et je vais finir sur un commentaire qu'a fait un grand réalisateur indien contemporain sur Ray, pour vous donner une idée, non pas de comment nous, occidentaux, on va essayer d'appréhender cette œuvre, mais comment il est perçu là-bas. C'est aussi intéressant de retourner là-bas. Alors, il s'appelle, je ne sais pas comment ça se prononce, Chayam Benegin. Il nous dit, I never tired of seeing his work. If you look at many of his contemporary and you go back to some of their early works, they seem to be dated. With Ray, they don't seem to be dated at all. With Ray, his contemporary, because his language, the cinematic language he used, was not topical. He was using something that in many ways, great writers use language. That's the remarkable part. Voilà.